Radio Classique, les spécialistes.
Les spécialistes avec Dimitri Pavlenko, tout à l'heure le journal imprévisible de Renaud Blanc et immédiatement donc Emmanuel Faux. À partir du moment où nous allons parler du Brésil, vous nous parlez beaucoup depuis le début de l'année à cause de la pandémie de cette présidence Bolsonaro qui n'a décidément pas de chance avec ses ministres après les démissions de deux ministres de la Santé en pleine crise du coronavirus. C'est le nouveau ministre de l'Éducation qui est pris en faute pour mensonge sur ses diplômes, ce qui n'est pas votre cas.
Oui, et le plus incroyable, Guillaume, c'est que ce ministre Carlos Alberto Decotelli s'est retrouvé au cœur de la polémique avant même d'avoir pris ses fonctions. Pendant que le président brésilien annonçait fièrement sur Twitter qu'il avait trouvé la perle rare pour incarner l'éducation nationale, un officier de retraité de la marine, ex-champion des universités, qui plus est la première personnalité noire à entrer dans son gouvernement, eh bien le CV du nouveau ministre commençait à être décortiqué méticuleusement. Monsieur Decotelli avait été nommé deux jours plus tôt en revendiquant une belle moisson de diplômes, un master à l'Institut Vargas de Rio, un doctorat en Argentine et un post-doctorat en Allemagne. Dès le lendemain, premier coup de semonce, le recteur de l'université de Rosario publie un communiqué dans lequel il explique que le ministre ne peut avoir le titre de docteur puisqu'il n'a jamais soutenu sa thèse. Trois jours plus tard, c'est l'université allemande de Wuppertal qui jette un nouveau pavé dans la mare. Désolé, explique la direction, mais Monsieur Decotelli n'a jamais obtenu de titre dans notre établissement, ni vu ni connu. Enfin, le lendemain, troisième démenti qui va achever de couler l'ancien officier de marine. Il vient cette fois du Brésil, de l'Institut Vargas à Rio, où l'on explique que le nouveau ministre n'a jamais été professeur au sein de cette formation, contrairement à ce que dit sa biographie officielle. Et concernant son mémoire de master, la presse rappelle les accusations de plagiat dont il a été l'objet. La messe est dite, le pas encore tout à fait ministre est contraint de jeter l'éponge, il démissionne. C'est le dixième départ du gouvernement depuis le début de l'ère Bolsonaro, il y a un an et demi.
Vous savez qu'en matière de plagiat, la France est un beau pays. Et c'est en vrai. Matière de diplôme, on se souvient que ça avait été le cas, par exemple, d'une polémique autour, vous vous souvenez, de Jean-Christophe Corbalélis, qui à l'époque considérait que, pour sa défense, qu'on pouvait intégrer justement dans les diplômes un certain nombre d'années de militantisme. Le président brésilien, donc, car il faut compléter cette réflexion, qui rechigne toujours à porter un masque sanitaire en public, et la justice a été saisie de la question.
Et c'est une question d'autant plus sensible, Guillaume, dans le deuxième pays le plus touché au monde, parce que les chiffres d'hier sont terribles. 1 400 000 cas de Covid-19 au Brésil et plus de 60 000 décès. Le Brésil épinglé au passage par la Croix-Rouge, qui reproche aux autorités d'avoir sous-estimé la pandémie et d'avoir, dit-elle, politisé le virus. Et voilà le président rappelé à son devoir d'exemplarité. Un juge a même ordonné à Jair Bolsonaro de porter un masque dans les lieux publics sous peine d'amende de 2000 reais, ce qui fait environ 340 euros. Mais comme dans la capitale Brasilia, où se trouve le siège de la présidence, un décret rend déjà le port du masque obligatoire pour tous, eh bien cette décision a été annulée au nom de l'égalité de traitement entre le président et l'ensemble des citoyens. La juge précise toutefois que le chef de l'État n'est aucunement dispensé de l'obligation de porter le masque en public. Ça va de soi, mais ça va mieux en le disant.
Voilà, et 7h44, avant de passer à Hong Kong, puisque nous parlions de littérature, et c'est aussi une des caractéristiques de Radio Classique, je citais tout à l'heure la première phrase d'Hemingway à propos du vieil homme et la mer. C'est aussi la disparition de Vladimir Nabokov, un géant de la littérature. Il y a en face du Montre-Palace à Lausanne une statue de Nabokov. Et vous savez que son héros principal avait 37 ans dans le roman, et la jeune fille, Lolita, 12 ans et demi. Est-ce qu'on pourrait encore écrire la première phrase de Lolita aujourd'hui, Dimitri ? Je vous la lis. « Lumière de ma vie, feu de mes reins, mon péché, mon âme, Lolita, le bout de la langue fait trois petits bonds le long du palais pour venir à trois cogner contre les dents. » Impossible d'écrire ça aujourd'hui, autrement Marlène Schiappa a une crise de nerfs. Il est 7h45, nous allons parler d'Hong Kong avec vous, c'est la une de tous les journaux ce matin. Alors c'est vrai que la situation, on la connaît d'un point de vue historique, indépendance, puis recontrôle de la Chine, puis ces derniers temps, revolonté d'indépendance, et puis ce matin, on est bien obligé de constater que Pékin a repris le dessus.
Ouais, avec l'entrée en vigueur de cette nouvelle loi sur la sécurité nationale votée par Pékin, et donc qui s'applique désormais à Hong Kong. Alors, les termes de la loi, ils sont quand même très très durs, et plus draconienne encore, cette loi, que ne le craignaient les habitants de Hong Kong. En gros, vous risquez la prison si vous êtes accusé de subversion, sécession, terrorisme, collusion avec avec une puissance étrangère. Le tout exprimé dans des termes extrêmement vagues et ça inquiète beaucoup le business à Hong Kong, parce que en termes de business, Hong Kong, ça n'est pas rien. C'est la troisième place financière du monde. Mmh. C'est la dixième.
C'est d'ailleurs pour ça que Pékin hésitait à intervenir massivement comme ça avait été le cas.
Oui, mais ils l'ont fait. Vous allez voir que c'est précisément aussi pour des raisons de business. Il y a des enjeux territoriaux, de souveraineté. D'ailleurs, ça fait un petit peu penser à cette annexion de la Crimée par la Russie, ce qui se passe aujourd'hui à Hong Kong. Et d'ailleurs, on notera la différence de traitement vis-à-vis de la Chine, deuxième puissance économique mondiale, qui n'encourt pour l'heure aucune sanction, si ce n'est des États-Unis, comparé à la Russie, qui, elle, est encore sous sanction européenne pour ce qui s'est passé en Crimée. Alors, pourquoi ça inquiète beaucoup le monde des affaires, cette reprise en main par Hong Kong? C'est que cette loi, elle va poser des questions sévères. Si vous travaillez pour un groupe étranger et que vous travaillez avec des groupes chinois, est-ce que vous tombez sous le coup de la loi? Les services juridiques de toutes les grandes entreprises qui sont installées à Hong Kong se posent aujourd'hui la question et ça n'est pas tranché. Donc, ce qui se passe pour beaucoup d'entreprises aujourd'hui, c'est de se dire, est-ce que je peux rester à Hong Kong? Et beaucoup ont décidé de partir. Si vous prenez par exemple les fonds d'investissement, Hong Kong, en termes de fonds d'investissement, c'est plus de 100 milliards d'euros de capitalisation. C'est plus que le Japon, Singapour et l'Australie réunis. Rendez-vous compte du poids financier aujourd'hui de Hong Kong. Alors, vous avez des institutions qui ne pourront pas partir. Je pense à la banque HSBC, donc banque anglaise, mais dont le centre de gravité est aujourd'hui surtout basé en Chine, qui ne pourra pas partir et qui d'ailleurs a publiquement affiché son soutien à la loi. On a envie de dire sa loyauté vis-à-vis du gouvernement de Pékin. Mais pour d'autres entreprises, je pense par exemple au secteur de la technologie, Facebook, Google, Twitter, ils ont tous des bureaux à Hong Kong. Est-ce que la loi va leur imposer, par exemple, de surveiller des citoyens de Hong Kong? C'est possible aujourd'hui. Donc la question vraiment aujourd'hui se pose en ces termes. Alors c'est vrai que pour les Chinois, il y a ce risque de tuer le business à Hong Kong, mais en réalité, vous avez une autre lecture qui se fait dans les milieux financiers notamment, c'est de se dire que finalement pour Hong Kong, c'est peut-être pas une si mauvaise affaire pour ceux qui envisagent de faire du business avec la Chine. Il faudra respecter la loi, mais Pékin a besoin de Hong Kong pour en faire une ouverture sur le reste du monde pour sa monnaie, le yuan, le renminbi, qui aujourd'hui quand même a du mal à s'internationaliser. Clairement, aujourd'hui, Pékin veut que Hong Kong continue à travailler.
Vous voulez dire un petit mot, Emmanuel? Juste une précision, Dimitri, à la comparaison avec la Crimée. La différence, c'est que la Crimée appartenait à l'Ukraine, oui. Alors que Hong Kong reste une région autonome du territoire chinois.
Un pays, deux systèmes.
Voilà. Il est 7h48, nous marquons une très légère pause et voici donc le journal imprévisible de Renaud Blanc. Nous allons nous appesantir sur les relations qui existent entre le football et les présidents de la République à propos de l'affaire Platini, l'homme qui a vu Nicolas Sarkozy et dont Emmanuel Macron parle avec presque des larmes dans les yeux.